VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du lundi 21 octobre 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Mali, l'armée annonce avoir neutralisé des dizaines d'ennemis dans son offensive contre les djihadistes depuis la récente attaque de deux de ses camps.
Au Nigeria, découverte d'exactions contre des talibés dans une autre école de Kaduna dans le nord du pays.
Au Togo, Jean-Pierre Fabre, candidat à la présidentielle de 2020. Ce sera en seconde partie de cette édition.
En Tunisie, Ennahda choisira une personnalité issue de ce parti d'inspiration islamiste pour présider le futur gouvernement.
En Syrie, retrait total des combattants kurdes de Ras Al Ain, une ville frontalière de la Turquie.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Mali, l'armée malienne a annoncé avoir neutralisé des dizaines d'ennemis et réussi à libérer une trentaine de ses soldats lors d'une contre-offensive lancée après la double attaque du 30 septembre contre ses bases militaires. Notre correspondant Kassim Traoré fait le point.
C'est pour faire le point de l'offensive en cours menée par les forces armées maliennes FAMA et leurs partenaires que le commandant du théâtre centre de l'opération Dambé s'est adressé à la presse, colonel-major Oumar Diarra.
À peu près 80 ennemis neutralisés, une centaine de blessés, des matériels détruits et un important pôle logistique de 35 fûts de carburant détruit. Côté ami, 40 morts, 36 rescapés, dont 17 évacués. Le bilan des portés disparus est revu à la baisse avec un chiffre de 27 militaires tout au plus.
Général Abdramane Babi, chef d'état-major général adjoint des armées du Mali.
Nos frappes nous auraient permis de neutraliser des acteurs de premier plan, notamment au niveau de Ansarul Islam, avec des noms qui ont été évoqués comme le cas de Amadou Boukari Diko, dit Jafar Diko, donc qui a priori aurait été neutralisé, ainsi que Ousmane Boli, dit Oumi.
Selon les responsables des FAMA, les opérations offensives antiterroristes en cours vont se poursuivre avec le soutien de leurs partenaires et de nouvelles dispositions sécuritaires seront prises. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Nigeria, découverte d'exactions dans une autre école coranique de Kaduna, dans le nord du pays. Cette fois-ci, on parle de près de 150 élèves, dont 22 filles. Plus de 1000 talibés ont ainsi été libérés en un mois. Les détails avec Gilbert Tamba à Abuja.
C'est la quatrième opération de ce type en un mois effectuée par la police nigériane. Les conditions de captivité des personnes libérées n'étaient pas encore claires, mais contrairement aux autres écoles, au moins 22 des captifs nouvellement libérés étaient des femmes. Selon la police de l'État de Kaduna, les captifs avaient été enchaînés, battus et abusés sexuellement. Des abus similaires ont été signalés dans d'autres centres de torture récemment découverts à Katsina et Kaduna au cours du mois écoulé. Les centres de torture convertis en écoles islamiques sont très répandus dans le nord du Nigeria, majoritairement musulmans. Les propriétaires de ces centres prétendent enseigner le Coran aux étudiants, mais les soumettent plutôt à des abus physiques au nom d'une réhabilitation morale. Une de ces écoles a été découverte la semaine dernière dans la ville natale du président Muhammadu Buhari. Les personnes libérées comprennent des enfants âgés à peine de 7 ans. Dans le pays, les gens se demandent combien y a-t-il encore de ce type de centres de torture qui restent encore cachés. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
La justice française doit rendre aujourd'hui sa décision concernant un ex-ministre du Burundi et son épouse, accusés d'avoir exploité pendant 10 ans un Burundais chez eux en région parisienne. Claire Morin-Gibourg.
Ancien ministre de la Justice puis de l'économie au Burundi, Gabriel Mpozagara a comparu le 9 septembre aux côtés de son épouse pour soumission à un travail forcé et à des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité. Le couple a clamé son innocence. À la barre, méthode Cindy Yagaya, un ancien cultivateur burundais de 39 ans, a affirmé travailler 19 heures par jour, faisant toutes les tâches ménagères de la maison, le jardinage et s'occupant d'un des fils du couple qui souffre de handicap. Il a raconté dormir au sous-sol dans la buanderie et se laver avec un seau d'eau. Son passeport avait été confisqué par ses employeurs, a-t-il dit. La procureure a requis 3 ans de prison, dont un ferme. L'avocat de monsieur et madame Posagara a insisté sur le manque de preuves dans ce dossier. En 2007, le couple avait déjà comparu dans ce même tribunal. Ils avaient été condamnés puis relaxés en appel dans un dossier similaire qui concernait 2 jeunes nièces venues du Burundi. Le tribunal correctionnel de Nanterre doit rendre sa décision aujourd'hui lundi.
En Tunisie, Ennahda, vainqueur des élections législatives, choisira une personnalité issue de ce parti d'inspiration islamiste pour présider le futur gouvernement. C'est ce qu'il a annoncé hier au terme d'une réunion de son conseil consultatif. Une fois le président élu Kais Saied investi, il aura une semaine pour charger Rached Ghannouchi, chef d'Ennahda, de former un gouvernement, une tâche qualifiée d'ardue dans un parlement morcelé. Selon le parlement, M. Saied prêtera serment ce mercredi.
Au Soudan du Sud, le chef rebelle Riek Machar a annoncé hier vouloir un nouveau report de la formation d'un gouvernement d'union nationale avec le président Salva Kiir. Selon lui, toute précipitation conduirait à la catastrophe. Arrivé à Juba samedi pour s'entretenir avec M. Kiir, Riek Machar a rencontré une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU en visite dans le pays. La formation de ce gouvernement avait déjà été retardée en mai en raison de désaccords sur des questions cruciales telles que la formation d'une armée unifiée composée de rebelles et de forces gouvernementales et les frontières des États sud-soudanais.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les combattants kurdes ont quitté hier la ville syrienne de Ras al-Ain, assiégée par les forces turques. Un retrait qui devrait accélérer leur départ d'une zone frontalière de la Turquie, condition d'un accord de trêve négocié par Washington à Ankara. Annoncé jeudi, cet accord prévoit la suspension pour 120 heures de l'offensive lancée le 9 octobre par la Turquie pour permettre un retrait des combattants kurdes de zone frontalière du nord syrien. Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a affirmé que le cessez-le-feu tient très bien dans un tweet citant son ministre de la Défense, Mark Esper. Il y a eu des accrochages mineurs, les Kurdes se réinstallent dans de nouvelles zones, selon M. Esper.
Par ailleurs, le secrétaire américain à la Défense est arrivé hier à Kaboul pour une visite surprise au cours de laquelle il doit rencontrer le président afghan Ashraf Ghani et des militaires américains. De nouveau, Claire Moragibourg.
La visite de Mark Esper est la première en Afghanistan depuis qu'il a été confirmé à son poste en juillet dernier. Ce déplacement intervient alors qu'une grande incertitude pèse sur la mission militaire américaine dans le pays après l'arrêt des pourparlers entre les États-Unis et les talibans. En Afghanistan, je compte discuter de ce à quoi le futur pourrait ressembler, a-t-il déclaré à des journalistes qui l'accompagnent selon une transcription de ses propos par le Pentagone. Les pourparlers entre Washington et les talibans sur un retrait des forces américaines était sur le point d'aboutir début septembre quand le président américain Donald Trump les a suspendus après la mort d'un soldat américain dans un attentat. Nous pensons qu'un accord politique est toujours la meilleure façon de procéder concernant les prochaines étapes en Afghanistan, a encore dit M. Esper. Les États-Unis ont actuellement un contingent d'environ 14 000 soldats en Afghanistan.
Le Chili est en guerre, a affirmé dimanche le président Sebastián Piñera, dont le pays est secoué depuis 3 jours par des émeutes et des pillages qui ont fait 7 morts, la pire explosion sociale depuis des décennies. Pour la 2e nuit consécutive, une mesure de couvre-feu a été décrétée à Santiago. L'état d'urgence est également en vigueur dans plusieurs régions. Selon les autorités, 1462 personnes ont été arrêtées. Les manifestations qui ont débuté vendredi se sont poursuivies hier, bien que le président chilien ait annulé samedi la hausse du prix des tickets de métro à Santiago, à l'origine des troubles.
En Bolivie, le président sortant, Evo Morales, est arrivé dimanche en tête de l'élection présidentielle, suivi de près par son principal adversaire, le centriste Carlos Mesa, un journaliste de 66 ans, déjà président entre 2003 et 2005, ce qui contraint M. Morales à un second tour inédit dans ce pays, selon des résultats partiels. Le socialiste Morales remporte 45,28% des voix, tandis que M. Mesa totalise 38,16% des votes, a annoncé la présidente du tribunal suprême électoral électoral bolivien, avec près de 84% des bulletins dépouillés. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Miniteko Nanitalani.
En République démocratique du Congo, la mine Bissier a produit 2345 tonnes d'étain au cours du troisième trimestre, période où elle est entrée en phase de production commerciale. C'est une hausse de 269% par rapport au trimestre précédent. La mine prévoit produire entre 2000 et 2200 tonnes d'étain au cours de ces trois derniers mois. Le projet Bissier, situé dans la région du Nord Kivu, est un partenariat entre Alpha Mine Sources, le gouvernement congolais et le groupe sud-africain IDC. La mine Bissier compte employer plus de 1100 personnes. La Banque africaine de développement offre un appui financier de 1 million de dollars au programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle infantile mis en œuvre dans la province de Bié en Angola, publie l'agence Ecofin. Ces fonds permettront de produire une alimentation adéquate aux ménages vulnérables avec des enfants âgés entre 6 mois et 4 ans. La zone ciblée affiche le taux de prévalence de malnutrition chronique le plus élevé du pays, avec 51% contre une moyenne nationale atteignant 38%. Pour terminer, au Ghana, la construction du barrage polyvalent de Poualougou débutera le mois prochain pour un coût de 300 millions de dollars. Selon Ecofin, l'infrastructure permettra de produire 60 mégawatts d'électricité, de fournir de l'eau potable aux populations et d'irriguer 25 000 hectares de plantations où seront principalement semés du maïs et du riz.
Les sports à présent avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football pour commencer avec le dénouement des qualifications pour le prochain championnat d'Afrique des Nations.
Oui, on connaît maintenant tous les qualifiés pour la phase finale. Les 15 équipes qui rejoignent le Cameroun, pays hôte de la compétition. Et on peut noter le retour de la RDC, la nation la plus titrée de l'histoire du CHAN, qui était absente lors de la dernière édition qui a eu lieu au Maroc. Les Congolais de Kinshasa se sont imposés 4-1 devant la Centrafrique et puis Bourreau d'Aigle ou pas. Il y a 2 ans, le Congo Brazza sera lui aussi de la partie après avoir battu 1-0 la Guinée équatoriale.
La Guinée, Élisée, dame encore le pion au Sénégal.
Et ça fait la troisième fois de suite que le Sili National élimine les Lions de la Teranga. De son côté, le Mali a pris sa revanche sur la Mauritanie qui l'a privé de ce tournoi il y a 2 ans. Qualification également du Niger aux dépens de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso qui a conservé un avantage acquis à l'aller 1-0 contre le Ghana. Ça passe aussi pour la Tunisie face à la Libye et du Zimbabwe qui a dominé le Lesotho.
La suite des qualifiés, une grande première pour le Togo.
Les Éperviers disputeront le CHAN pour la troisième fois de leur histoire après avoir écarté le Nigeria finaliste de la précédente édition. Le Maroc sera aussi présent pour défendre son titre après sa victoire 3-0 devant l'Algérie. Ça passe aussi pour l'Ouganda, tombeur du Burundi, la Zambie qualifiée aux dépens de l'Eswatini ou encore le Rwanda malgré quelques frayeurs face à l'Éthiopie et puis la Tanzanie qui a obtenu sa qualification au Soudan. En revanche, Madagascar ne disputera pas cette compétition réservée aux joueurs évoluant dans leur pays puisque renversée par la Namibie 2-0.
Direction la Guinée et c'est officiel, le championnat de première division démarre le 26 octobre prochain.
Oui, et ce sera à Kindia. Elouba FC, promu en D1 cette saison, va recevoir les éléphants de Kolea au stade Fodé Fissa. Le même jour, le FC Sandoba sera face à Via FC à Conakry. Le Roya AC, champion en titre, affronte la SAG de Sirigui en clôture de cette première journée. Au Bénin, le championnat est à sa deuxième journée et le tenant Buffle du Borgou est seul leader avec 6 points après sa victoire de 2-1 devant Jacques. Aspac, classé deuxième avec 4 points, a été tenu en échec 0-0 par UPI ONM. Même score entre Esaü et Dragon, tout comme Krak et Tonnerre de Boïcon. En ouverture de cette deuxième journée, Énergie est allée battre Dinamo à Parakou 1-0.
Mondial de rugby à présent, l'Afrique du Sud bat le Japon, pays hôte, et file en demi-finale.
Les Sud-Africains ont fait parler leur puissance pour écarter des Japonais poussés par tout un stade en quart de finale de la compétition, score 26-3. Et puis, cyclisme pour finir, l'Algérien Azedine Lagab a remporté hier le Grand Prix Chantal Biya. A noter que c'est son compatriote Yassim Hamza qui s'est adjugé la 4e et dernière étape courue hier dans les rues de Yaoundé.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Togo, l'Alliance nationale pour le changement de Jean-Pierre Fabre a tenu ce week-end à Lomé son deuxième congrès ordinaire. Outre le renouvellement des instances dirigeantes de l'ANC, le congrès a investi son président, M. Fabre, comme candidat à la présidentielle de 2020. Une candidature qui vient s'ajouter aux trois autres déjà déclarées. Jean-Pierre Fabre est candidat pour la troisième fois au moment où tout le monde se demande si le président fort Gnassingbé va briguer en quatrième mandat. Notre correspondante Kayu Lawson fait le point.
Oui, j'accepte d'être le porte-étendard de la victoire des Togolaises et des Togolais en 2020. J'accepte pour conquérir...
C'est dans un discours qu'on pourrait intituler « J'accepte » que Jean-Pierre Fabre, président de l'ANC, a accepté d'être candidat de son parti à la présidentielle de 2020. Pour lui, le meilleur programme pour le Togo est l'avènement de l'état de droit.
Le plus grand programme au Togo concerne l'instauration de l'état de droit. Si vous ne mettez pas en place l'état de droit, aucun investisseur digne de ce nom ne viendra engager ses capitaux au Togo. Donc, première chose, il faut instaurer un état de droit qui attire les investisseurs, qui permette aux populations de vivre en sécurité.
Avec une élection à deux tours, l'opposition togolaise ne se focalise plus sur une éventuelle candidature unique. Le combat actuel est axé sur des réformes pour de meilleures conditions électorales. Professeur David Dosser, coordonnateur du Front citoyen Togo Debout.
Nous avons depuis des décennies lutté, consenti beaucoup de sacrifices. Il est temps pour que le Togo aussi achève sa lutte. Et 2020 doit être une année incontournable de la victoire du peuple togolais. Mais cela signifie que nous devons nous battre pour obtenir un minimum de conditions. Nous n'irons pas aux élections dans n'importe quelles conditions. Nous allons obliger le pouvoir à accepter un minimum de conditions qui puissent nous garantir la vérité des urnes.
Pour pouvoir arracher des conditions pour une élection transparente, il faut relever le défi d'une unicité d'action des forces dites démocratiques, suggère la coordinatrice de la coalition politique C14, Brigitte Adjamagbo-Johnson.
C'est ensemble que les forces démocratiques doivent aller chercher les conditions de transparence des élections. Il n'est plus question qu'on organise dans notre pays une parodie d'élection. C'est tout un défi, un grand défi.
La présidentielle de 2020 devrait se tenir sans Faure Gnassingbé, insiste Jean-Pierre Fabre.
Le chef de l'État, dont le père a modifié la constitution pour qu'il en profite, est à son troisième mandat. Et il compte briguer un quatrième mandat. Et je lui dis stop, parce que ça n'est pas normal. Et donc, ce ne sont pas les artifices juridiques ou constitutionnels ou l'invocation de dispositions constitutionnelles qui comptent. C'est l'addition des mandats. Monsieur Faure Gnassingbé en a déjà fait trois. Il ne peut pas raisonnablement penser faire un quatrième mandat.
Pour son investiture, Jean-Pierre Fabre a reçu de son parti une bougie allumée qui est l'emblème du parti, le drapeau togolais et une sculpture en bois du Togo. La présidentielle de 2020 devrait se tenir dans le premier trimestre de l'année. Les Togolais attendent que le président sortant, Faure Gnassingbé, se prononce sur son avenir politique, c'est-à-dire s'il sera candidat à sa propre succession pour un quatrième mandat. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, à moins d'un an de l'élection présidentielle, la bataille politique fait rage entre le RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix du président Alassane Ouattara, et le PDCI RDA de son ex-allié, l'ancien président Henri Konan Bédié. Reportage d'Aïcha Diarra.
On va va libérer Mangoua, plus haut, Bédié est plus haut, plus bas, Alassane est plus bas. Tels sont entre autres les chants qui constituent l'ambiance de ce méga meeting du PDC-RDA, un meeting qui plante le décor de la réalité politique en Côte d'Ivoire. Le mercure monte et les meetings s'enchaînent. On se croirait à une campagne présidentielle. À ce dernier meeting du PDC-RDA étaient présents les partisans et les barons du FPI Laurent Gbagbo et ceux de Guillaume Soro qui, depuis un certain temps, démontrent un intérêt commun particulier. Tout porte à croire que des alliances sont scellées uniquement pour faire chuter le RHDP. Henri Konombédié est le président du PDC-RDA.
PDCI-RDA, ses alliés et sympathisants sont plus que jamais déterminés pour reprendre les rênes de ce pays.
Pendant que le RHDP se proclame héritier idéologique de Félix Houphouët-Boigny, Henri Konombédié considère que seuls sont héritiers ceux qui ont refusé de s'allier au RHDP unifié.
Que les vrais et seuls disciples de Félix Houphouët-Boigny sont les militantes et militantes qui ont protégé et protègent la maison père du père.
Chacun a son point de vue sur ces alliances de la politique ivoirienne. Selon Traoré Moussa, ces alliances ne sont faites que pour des intérêts personnels et non ceux de la Côte d'Ivoire.
Bon, vraiment, les alliances-là, ils ne voient pas les fondements, ils ne voient pas la base, quoi. Tout, bon, c'est fait intérêt personnel. Bon, quand ils vont avoir la place après, bon, chacun fait ce qu'il veut.
La politique n'est pas l'affaire de tous, tel que Soumaoro Ahmed, transporteur, qui lui préfère aborder des sujets relatifs à son activité professionnelle.
La vie politique, sincèrement, moi, je n'ai rien à dire, sincèrement. Moi, je suis un transporteur, c'est que moi, il voulait que nous allions améliorer. Là, sur la route, nous, on nous fatigue vraiment. Tu as papier, tu n'as pas papier, c'est la même chose là. Hop, t'en fais papier là, c'est pour être libre.
Pour l'heure, Yam Sokro, capitale administrative de la Côte d'Ivoire, est objet de convoitise pour le RHDP à cause de son électorat qui, à la base, est PDCI-RDA. Ce dernier ne compte pas non plus laisser son électorat à son adversaire politique, le RHDP. Donc, il n'hésite pas à montrer sa force de frappe politique dans son fief, comme l'a démontré ce dernier meeting qui a réuni des milliers de participants. Aïcha Diara Abouaké pour VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, les acteurs politiques, surtout ceux de l'opposition, ne sont pas tous d'accord sur les préparatifs du dialogue national. Si certains saluent une opportunité de se parler, d'autres, en revanche, jugent inopportun ce dialogue et appellent simplement à la libération des prisonniers politiques et à la mise en œuvre des conclusions des dialogues qui ont déjà eu lieu dans le pays, notamment sur le point concernant la gouvernance électorale. De Brazzaville, notre correspondant Arsène Sévrin.
Au début de ces consultations, le Conseil national de dialogue que dirige Martin Berry, un ancien ministre, a trouvé une oreille attentive à la majorité présidentielle et à l'opposition parlementaire, dont Pascal Tsassima-Biala est le chef de file.
D'abord, il y a nécessité de se parler. Les Congolais ont besoin de se parler.
Mais depuis là, les voix s'élèvent du côté extrême de l'opposition pour s'interroger sur l'opportunité d'un tel dialogue. Éric Patrick Mampouya, à la sortie d'une réunion de la Fédération de l'opposition, préparant la rencontre prochaine avec les membres du Conseil national du dialogue.
Ça ne va pas du tout. Depuis plus de 10 ans, on se bat toujours à la veille à cause des élections. On n'arrive pas à régler le problème, on a eu des dialogues. C'est du foutage de gueule. Ce dialogue-là ne produira rien. Mais on va recevoir la délégation de M. Mbéry Martin pour leur dire que ça ne produira rien. Le dialogue est permanent au Congo. C'est du n'importe quoi.
Ancien prisonnier et président de Unis pour le Congo, Paulin Makaya tient à ce que l'ordre du jour de ce dialogue soit bouclé ensemble avec les opposants.
C'est le pouvoir qui a changé la conscience et qui a mis en place ce Conseil national du dialogue. Ce que nous proposons, c'est clair et simple. Il faut qu'on mette en place une commission préparatoire mixte paritaire. Opposition, pouvoir, société civile et la diaspora. Et à la fin, nous proposer un ordre du jour, parce qu'il s'agit du pays qui est malade. Il ne faut pas tergiverser.
Plus serein, l'universitaire Vivien Manangu analyse la démarche du Conseil national du dialogue en ces termes.
Moi, je m'interroge en revanche sur l'efficacité des consultations plateforme par plateforme. Disons par exemple que les plateformes ne sont pas juridiquement, non pas véritablement d'existence juridique. Il aurait sans doute été mieux que le Conseil national du dialogue procède par des consultations partis politiques par parti. Si on veut évoquer la question économique, c'est du ressort du gouvernement. C'est au gouvernement de trouver des solutions pour répondre à la crise économique. Et même les questions électorales. Je ne vois pas bien qu'est-ce qu'on va dire dans un dialogue, parce que nous avons empilé des dialogues. Les résolutions existent, il suffit de les mettre en application.
Lors de la consultation la semaine dernière auprès des partis du centre, une bagarre s'est déclarée, occasionnant un blessé grave. Choqué, Martin Berry condamne cette violence et appelle les différents acteurs politiques à dialoguer, quel que soit le problème.
Ceci reste incompréhensible, intolérable et condamnable. J'en appelle à tous les acteurs politiques de notre pays de cesser définitivement de faire le recours à la violence qui n'a aucun sens. Il s'agit maintenant de pratiquer de manière constante le dialogue, dont les résultats sont souvent pertinents. C'est ce que nous recherchons.
Malgré cet incident, le Conseil national du dialogue n'a pas pris de plan dans l'aile. Au contraire, il compte se déployer ce mercredi vers d'autres formations politiques de l'opposition. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, et on parle ici d'un festival particulier, celui que l'on appelle un vent de liberté. Il se tient depuis 10 ans dans les prisons. L'objectif est d'apporter une certaine humanisation dans les prisons et de formuler des plaidoyers en faveur des prisonniers qui sont dans des conditions de détention précaires, nous dit notre correspondant Lamine Traoré.
Des milliers de détenus dans le plus grand établissement pénitentiaire du pays, la MACO, la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Des musiciens se succèdent sur le podium dressé à l'occasion. Nous sommes au festival Un Vent de Liberté. Parmi les musiciens, Johnny, cet ex-prisonnier converti aujourd'hui à la musique.
J'étais à l'école, bon, l'école n'a pas aussi marché.
Jonathan Sigue dit Johnny.
J'ai un peu déraillé la mauvaise compagnie et tout, jusqu'à ce que je me retrouve en prison. Et dans mes chansons, mais premier morceau, bon, je parle de ma propre mère d'abord, parce que c'est une, réellement, je l'ai fait beaucoup souffrir. Par mes actes, la prison et consorts, faire la pareille, se retrouver quelques années ici de retard, ça ne sert pas.
Depuis 10 ans, le festival se tient dans les prisons au Burkina. Dans la mission de l'administration pénitentiaire, il y a non seulement la garde, mais aussi la réinsertion sociale des détenus.
Toute activité qui peut amener le détenu à se sentir utile à lui-même et puis utile à la société, là, nous prenons ces activités-là.
Claude Ouédraogo, régisseur de la MACO.
Les actes de loisirs, la musique, là, ça adoucit les mœurs. Au-delà de cela, ça prépare l'homme même à mieux s'organiser pour et à enclencher des activités. La prison n'est plus un milieu où on incarcère seulement sans préparer la réinsertion sociale. Là.
Les organisateurs, à travers Un Vent de Liberté, veulent interpeller les autorités à se pencher sur les dures conditions de détention des prisonniers. Freeman Tapili est le promoteur du festival.
Nous, en tant qu'organisateurs, moralement, on est satisfaits. En 10 ans, il y a beaucoup de témoignages que nous avons réussi à entendre de leur part et nous sommes vraiment satisfaits. Nous, on pense qu'il faut doter toutes les maisons d'arrêt de correction en serviettes hygiéniques pour les femmes qui sont indisposées quand elles sont incarcérées. Là, nous interpellons le ministère de la Femme, le ministère des Droits Humains, le ministère de la Justice, même la présidence, l'Assemblée nationale. Il faut prendre une loi claire pour qu'on d'autres les maisons d'arrêt en serviettes hygiéniques. Parce que c'est la dignité féminine. Il faut aussi qu'on on traite le cas des enfants, des bébés qui sont dans les maisons d'arrêt de correction. Il faut qu'on prenne une décision claire et puis l'hygiène dans les maisons d'arrêt de correction.
10 prisons seront sillonnées pour ces 10 ans du festival Un Vent de Liberté. Au programme, des spectacles et des repas au profit des prisonniers. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Kelvin Fowler. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.